victoire sur l'éternité. Et à la fin de l'Apocalypse, il dit, voilà, je fais toutes choses nouvelles. Même parmi les nations, les horreurs, même dans l'histoire de ce monde, c'est rempli d'horreurs, mais Dieu, il va faire toutes choses nouvelles. Il va essuyer les larmes de tous les yeux. Il n'y aura ni cri, ni deuil, ni douleur. Alléluia. Ça, c'est, je m'accroche à ça. Parce que quelquefois, on entend des cris, on voit des douleurs, on voit des choses terribles. C'est comme si la mort règne partout. Mais la mort n'est pas la fin de l'histoire. C'est l'amour qui est la fin de l'histoire. Et cette sainte scène, c'est la victoire de cet amour, qui n'est pas un amour à l'eau de rose, mais qui est un amour vraiment empreint de sang, mais qui triomphe de nos cœurs et qui triomphe de ce monde. Et donc, ce matin, je me présente devant vous, et là, j'ai perdu ma Bible. Moi, je l'ai laissée là-bas. Je vois que Sylviane n'est pas là. Mais, voilà. Alléluia, je l'ai trouvée. L'église de Wavrin reste évangélique. C'est bien. Ah. Mais je ne sais pas, ouais. Allez Robert, sois sérieux. Et donc, c'est quelquefois Sylviane, elle me demande, elle dit, mais là je suis en train de regarder la télé, un match de rugby et tout ça, tout tranquille. Elle dit, ah j'aime bien ce tableau, je veux que tu fasses un petit trou dans le mur pour prendre... Oh. J'aime pas faire des petits trous. Hein. C'est pas comme Gainsbourg, les petits trous. J'aime pas les petits trous, moi. Et alors là, il faut trouver un marteau. Alors là, je prends mon marteau. Tac, tac, tac. Et je fais pas souvent. Et je tape. Et donc, je tape mon doigt. J'ai besoin des deux mains hein, pour mimer. Hein. C'est dur de faire un petit trou avec le micro. Hein. Mais donc je fais tac, je tape mon doigt. Paf, parce que je suis un homme tellement sain, tu vois, de l'abondance de mon cœur. C'est en Luc 6, il dit de l'abondance du cœur. La bouche, paf. Alors là, est-ce que je dis Alléluia? Est-ce que je dis Shalom? Malheureusement, je dis même pas mince. Je voyais, mais mince, c'est pas mal. Mais finalement, mon cœur voyou britannique, c'est presque comme Shalom, mais la fin n'est pas aussi jolie. Et donc, bon, ça c'est moi dans ma pauvreté humaine. Mais Dieu, tu sais, c'est la clé de Pentecôte. Parce que Dieu, il a un cœur. Et l'abondance du cœur de Dieu parle. Et au début de la création, il y avait le Saint-Esprit qui frémissait là, qui planait sur la création. Et de l'abondance du cœur de Dieu, il a dit « Lumière !» Et la lumière est sortie de lui, c'était magnifique. Et on a eu lumière. Et après, il a dit « Les Alpes !» Il a créé le monde de l'abondance qui était en lui, magnifique. Et après, parce que Dieu, il est dans l'éternité, sa parole a toujours jailli. Mais un moment, peut-être, il a parlé, il a dit « l'agneau de Dieu ». Et l'agneau qui se trouvait dans ce cœur tout puissant, ce cœur omniscient, ce cœur omnipuissant, est devenu faible aussi. Et un petit agneau a exprimé aussi la plénitude du cœur de Dieu. Et c'était Jésus, l'agneau de Dieu, qui est venu pour ôter les péchés du monde. Et je pense que pour moi, c'était vraiment la parole qui est sortie du cœur de Dieu, qui a sauvé le monde, bien sûr, le Logos. Cette parole qui est devenue chair. Mais Dieu avait encore une parole. Il y avait encore quand même une parole, parce qu'il voulait que le cœur humain soit capable et le cœur de l'humanité entière soit capable de recevoir, pas juste Jésus visible à l'extérieur de nous-mêmes, mais il voulait que cette parole, cette abondance de son cœur puisse entrer en eux, dans son Église. Et donc le jour de Pentecôte, quand tout le monde était ensemble, dans le même lieu, ils cherchaient, ils attendaient la promesse. Et tout d'un coup, ils étaient 120. Ce n'était pas une méga église, 120 fidèles qui s'accrochaient. Il y avait beaucoup plus que 120 qui ont vu le ministère de Jésus. Il y avait des foules et des foules et des foules. Mais à la fin, il y avait 120 fidèles. Et ces 120, avec leur petit cœur humain, qui aspiraient après Dieu, tout d'un coup, ces petits cœurs humains étaient envahis de l'abondance de Dieu, du cœur de Dieu. C'est incroyable, ils ont explosé. Parce que cette parole créatrice est entrée en eux. Cette parole de résurrection, de vie, ce cœur de Dieu est entré dans leur petit cœur. Et bien sûr, le petit cœur humain, boum, 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 ça a explosé. Ça a explosé. C'était du feu, c'était le bruit. Parce que le cœur de Dieu, ça fait du bruit. Ça fait trembler les meubles. Parce que l'amour divin fait trembler la terre. Ça fuse, quoi. Et là, ces petits cœurs humains ont été envahis. Et ce n'est pas étonnant qu'ils ont parlé en langue. Il n'y avait pas de langage humain pour exprimer le cœur de Dieu. Mais ces langues, c'était des langues humaines, en tout cas en acte 2. Chacun les entendait parler. Il y a deux mots, il y a glossa et dialecte. C'est deux pour langue et langage. Et ils ont entendu leur dialecte, leur langage. C'était fusion, même les gens, ils étaient comme ivres. Ils étaient comme ivres, comme ça. Parce que quand on est touché profondément par l'amour dans nos corps, dans notre âme, ça nous transforme. Je pense qu'ils étaient hors d'eux-mêmes. C'était le trop-plein du cœur de Dieu qui débordait dans le monde. Et ça a montré, finalement, l'amour de Dieu pour tout le monde, pour toutes les nations. C'est ça, Pentecôte. C'est l'agneau de Dieu, voilà la parole de Dieu, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et maintenant, ces petits 120-là, ils ont le cœur de Dieu en eux, ils ont le cœur de Dieu par le Saint-Esprit, il les a pénétrés. Et ils ont une parole pour les nations. Ils ont une parole pour toute cette diversité d'humanité qui est devant eux. Et c'est ça le message de Pentecôte. C'est l'amour de Dieu pour le monde. C'est tout simple. Je sais que tu m'aimes. Et c'est super d'être nous, petit groupe ensemble, ce matin. Dieu nous aime. Mais là, le cœur de Dieu bat pour nous, bien sûr. Mais il bat pour tous ceux de l'extérieur. Ils veulent qu'on parle leur langue. Ils veulent qu'on parle leur langue. La langue des jeunes. La langue de toutes les nations. Parce que là, ici, c'est intéressant. Bon, je choisis deux ou trois langues ici. La Libye. Ah, ça serait bien qu'il y ait Pentecôte en Libye en ce moment. Il y a l'Égypte qui est mentionnée ici. Cappadoce, ça c'est la Turquie peut-être, avec ici, Daesh et tout ça. Et les Arabes, il y avait les Arabes dans l'histoire. Et là ça montre ici, j'aime bien le dire parce que quoi le mot arabe, quand on dit arabe, tu sais, ça peut être imprégné de toutes sortes d'esprits, ce mot arabe, comment on dit, c'est neutre, hein, arabe. Mais ici, il dit clairement que Dieu aime les Arabes. Il parlait, il ne sait pas qui avait le don de parler en arabe, hein, qui parlait, voilà, choukran, je ne sais pas ce qu'il disait, Allah, peut-être il disait Allah. Hein, mais là, ça, les gens entendaient, les Arabes là, ils entendaient parler dans leur langue les merveilles de Dieu. Alors moi j'ai dit, c'est superbe. Pentecôte, c'est ce message d'amour pour tout le monde. Et même, c'est un message d'amour dans une diversité. C'est vraiment, le cœur de Dieu, c'est un amour pour toutes sortes de personnes. Et là, c'est vrai, on n'est pas d'accord pour la bénédiction qu'on peut donner, ce que l'Église unie de France a voté. Mais moi, je suis très d'accord d'aimer et d'accueillir. Très, 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 très d'accord. Parce que je pense que ça serait le message de Pentecôte. Ça serait d'aller et d'avoir un langage qui s'accroche. Qui veut le don de parler en langue à toutes ces diverses populations autour de nous? Moi, j'aimerais bien avoir la capacité de dépasser mon langage, mes habitudes, pour avoir un langage d'amour imprégné de vérité. Donc, c'est aussi le message de Pentecôte. Mais j'étais touché par la prière de Jean-Claude ce matin. Je pense que dans sa prière, il citait Jean, l'évangile de Jean, Jean 14. En Jean 14, verset 18, Jésus a fait une superbe promesse. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Ah, qui n'a pas eu cet esprit d'orphelin de temps en temps dans leur vie? Qui ne l'a pas eu? Moi, j'ai ça souvent, je ne suis pas comme les autres, je ne suis pas vraiment aimé comme les autres, esprit de pauvreté, voilà, je dois faire avec des petites choses. Et on est quelquefois mal à l'aise, comme si on est à côté, marginalisé du grand festin de l'humanité. Tous les autres sont là, ils sont en train de bouffer, voilà, et moi j'ai un peu de riz. Et quelquefois même au niveau de l'Église en France, quelquefois on voit les réveils, Pentecôte en Afrique, Pentecôte en Amérique du Sud, Pentecôte en Corée, grandes églises, c'est magnifique. Et après nous, pour les Français, bon, on aime manger, mais quelquefois dans l'Église, on dit c'est un peu la 17, on n'a pas tous ces miracles, on n'a pas toutes ces conversions. On se sent un peu un pays orphelin, une Église orpheline. On doit traverser ces sentiments. Souvent, on doit juste dire, voilà, c'est comme ça. Mais, c'est ça la promesse de Pentecôte. C'est ça la promesse de Pentecôte. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens vers vous. Et comme cet amant qui bondissait sur les montagnes pour rejoindre, voilà, mon bien-aimé, il vient, notre bien-aimé, il vient. Il ne nous laisse pas comme orphelin, comme veuve, mais il vient vers nous. Il vient vers nous. Et aujourd'hui, dans sa parole, dans l'adoration que nous venons de faire, dans la louange, il vient vers nous. Il vient vers nous. Et Pentecôte, c'est quand Dieu est vraiment venu vers son Église. Et donc, acte 2, il ne nous laisse pas comme orphelin. Et donc, vous savez, il y a trois choses qui marquent l'orphelin. Il est privé de la chaleur du père, de la famille. Il se sent seul, privé d'amitié, privé d'amour, isolé. Et surtout, privé de père. Privé de père. Quelquefois, il peut être privé de sens. Un sens de la vie. Je ne sais pas, je tourne en rond, je ne sais pas que faire. C'est juste la survie, quoi. Je dois juste grappiller assez de joie dans ma journée pour survivre. Mais on n'a pas une mission, quoi. On n'a pas un sens. Et quelquefois aussi, on est orpheline de puissance et de patience, d'une qualité de vie, une qualité de... Comment expliquer, de victoire même, de victoire spirituelle, de victoire contre le péché, contre le découragement. Et c'est comme si on subit, au lieu de porter ce vêtement de louange, c'est comme si on marche en haillant de deuil. Et donc voilà, je ne vous laisse pas comme orphelin. Je viens vers vous, c'est ce que Jésus a dit. Et ce qu'il nous dit ce matin, Ce dimanche de Pentecôte, je ne vous laisse pas comme orphelin. Vous ne quittez pas cette pièce avec l'esprit d'orphelin drapé sur vos épaules. Et donc, trois choses que Pentecôte a apportées. Trois choses. Pentecôte a révélé l'amour du Père. Le Saint-Esprit, quand il est là, il révèle toujours l'amour du Père. Même aux orphelins dans le monde, même à tous ceux privés de tout, privés d'affection, même ceux qui ont eu de mauvais exemples de pères, qui les ont abattus, qui ont été mauvais. Voilà, Dieu connaît tout ça, et tout ça est pris dans la croix. Quelqu'un a payé le prix pour cette souffrance. C'est pas que ça compte pas, ça compte beaucoup. Ça nous abîme, c'est une lutte, c'est pas toujours facile. Mais tout le mal a été accroché à cette croix. Et qu'on veuille ou non, même si mon expérience n'est pas à la hauteur de cette croix, je préfère choisir la croix chaque fois. J'ai dit, mais cette croix est la guérison totale de l'humanité et de ma vie. Même si je dois persévérer, mais je ne peux pas diluer cette vérité. J'ai la victoire en Jésus-Christ par la croix. Et quand le Saint-Esprit vient, il actualise cette victoire. Et quand le Saint-Esprit vient à Pentecôte avec ses flammes de feu et tout, c'est l'amour du Père qui a pris possession de son Église. Et voilà, juste quelques versets. Luc 3:21. Parce que c'est quand Jésus a vécu sa propre petite Pentecôte. Hein. Il a eu hein, le ciel qui s'est ouvert. Et lui, il n'avait pas besoin du feu parce qu'il était déjà pur. Tu vois. Quelquefois, nous, on a besoin d'un peu de feu pour brûler nos péchés. Qui n'a pas besoin de feu? Allez, brûle! Brûle, Seigneur! Tout ce qui est indigne en moi. Sois un Dieu saint. Seigneur, tu vois, le jardin de Gethsémané était protégé par des anges flamboyants, les chérubins. Les anges flamboyants, ça protège la sainteté. Et merci qu'on ne va pas avoir le péché dans le ciel. On en a déjà assez sur cette terre. Je ne veux pas contaminer le ciel en arrivant. J'imagine un peu de péché dans ma poche. Je peux passer aux douanes. Est-ce que tu as quelque chose à déclarer? C'est Jésus n'avait rien à déclarer. Rien à déclarer. Et nous, tu sais, il dit, mais passe par cette machine. Ah, oh, quoi? Ouais. Boum, le feu. Et nous, on va sortir comme de l'or, comme des pierres précieuses. Et déjà sur la terre, déjà dans ces moments de louange, laissez-vous brûler. Laissez-vous brûler, consommer par l'amour de Dieu. Ce n'est pas une punition, quoi, tu vois. Ce n'est pas une punition, c'est une sanctification. Mais Jésus n'avait pas besoin de ça. Tu ne vois pas le feu, qui voit le feu? Lui, il a une colombe. Oh, merci Seigneur. Mais c'est normal. C'est normal qu'il y ait la pureté. Dieu était. Il n'avait pas besoin d'envoyer le feu. Il pouvait avoir voilà, que la colombe. Que la colombe. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Il vient une voix du ciel. Allez, Pentecôte, c'est cette voix du ciel. Tu es ma fille, tu es mon fils, bien-aimé, objet de mon affection. Alléluia. Quelquefois, on peut connaître Dieu le Père dans la tête, mais Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit, il place cet amour du Père dans le cœur. Et c'est ce qu'il veut faire même maintenant. Tu es aimé, embrassé par ses bras d'amour, pardonné, libéré. Merci pour le feu. Oui, il a envoyé le feu à Pentecôte. Il nous purifie par le sang de Jésus. On est aimé. Tu es aimé ce matin. Je ne te laisse pas comme orphelin. Tu es mon fils bien-aimé, objet de mon affection. En Romains 8, 13. Il dit... 8, 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. C'est ça le monde souvent. Servitude, crainte, servitude, crainte, servitude, crainte. Ah, je ne veux plus vivre comme ça. Servitude au péché, servitude à mes émotions, servitude à toutes sortes de choses, crainte, crainte, crainte. Non, ça c'est le régime de Satan. Et Dieu m'a délivré de ce régime. Il m'a délivré de ce régime. Il dit, tu n'as pas reçu cet esprit. Quand j'ai envoyé le Saint-Esprit à Pentecôte, j'ai reçu quel esprit donc? Un esprit d'adoption. Alléluia, je ne vous laisse pas comme orphelin. Un esprit d'adoption par lequel nous crions. Abba, Père, Abba, Père. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, le parler en langue, parce que c'est le jour de parler en langue, je vais expliquer, je vais faire un fou et à mesure. Tu sais, il y a un don de parler en langue, j'arriverai. Mais on peut être plus simple que ça, parce que quelquefois c'est tellement spiritualisé. Et je ne me moque pas, hein, moi j'aime bien parler en langue et tout ça. Mais, esprit du Père, qu'est-ce que c'est un petit bébé? Je me rappelle quand David, mon premier-né, on est tous des grands apprentis avec un premier enfant au foyer. Et j'étais là, il était là. Et un jour, je dis, cet enfant va me parler. Quand il est né même, je le voyais. Et je dis, un jour, il va parler. Et je me rappelle, c'est la même chose pour nous tous, non? Quelles sont les premières paroles d'un enfant? Ba, 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 ba. Oh, oh mais il y a... Oh, ba, ba, ba. On crie Abba Père, Baba, Baba. C'est quelque chose de notre ADN. Et donc, on n'a pas besoin d'être super spirituel, tellement saint, pour parler en langue, les langues de feu. Si vous voulez parler en langue, aujourd'hui, dites Baba. C'est pas difficile. Et vraiment, avec cet esprit du Père, Papa, Baba, Baba. Moi, je le fais souvent, hein. Surtout quand je suis opprimé, quand j'ai besoin d'innocence, quand j'ai besoin de dire, voilà Seigneur, j'ai besoin de toi, je ne peux rien faire. Baba, baba. Et c'est un parler en langue qui attire l'onction du Père. C'est trop bête, hein? Je m'excuse, j'aurais dû dire quelque chose de compliqué, de voilà, machin, mais c'est vrai, ce n'est pas toujours aussi mystique et spiritualisé qu'on ne pense. Baba, baba. Baba, et que tu peux ajouter baba, 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 comme vous voulez. Mais Dieu se réjouit dans cet esprit d'innocence de recevoir l'amour du Père. Baba, alléluia. C'est, on n'a pas besoin d'être agressivement pentecôtiste. L'agressivité, c'est réservé pour les démons. Hein, j'arriverai. Toute agressivité, c'est réservé pour les démons. D'accord? Mais il y a une douceur dans cette effusion du Saint-Esprit, l'amour du Père. Voilà, Dieu aussi nous donne une mission. D'accord? Une mission. Je ne vous laisse pas comme orphelin. Vous serez mes témoins. Et ce que je viens de dire au tout début de ma prédication, les gens ont parlé en langue. Ils parlaient arabe, ils parlaient de la turque, ils parlaient toutes sortes de vraies langues. Et ça fait partie aussi du... Le don de parler en langue. De temps en temps, c'est très rare, comme les résurrections des morts, c'est rare. Mais il y a les gens qui prêchaient dans la rue, et tout d'un coup, il y a les Chinois qui passent, et le gars, il reçoit surnaturellement le don de parler en chinois. Moi, j'ai essayé de faire ça quand j'étais chez les Touaregs. J'étais chez les Touaregs, au Niger, et j'étais chez les Touaregs, et j'ai dit... Ils n'ont rien compris. Non, mais bon, j'ai essayé. Et malheureusement, j'ai dû apprendre le français en venant en France. Ça n'est pas venu tout de suite, là, comme ça. Désolé, Derek et Odile, le don de parler en français. Ça n'est pas venu tout de suite sur vous. Mais ça, ce n'est pas grave non plus, parce qu'on est aussi loin pour persévérer dans l'apprentissage. Mais on est aussi loin pour la mission. Et le parler en langue, il y a une partie du parler en langue qui est le cœur de Dieu pour la mission. C'est indiscutable à Pentecôte. C'est pas juste de parler en langue dans une pièce et ne pas aimer le voisin, tu vois. Il faut vraiment aimer les nations. Vraiment aimer les nations. Donc, le Saint-Esprit, quand il vient, il vous donne une mission. Mais quand même, Il vous donne aussi une puissance. Alléluia. Il vous donne une qualité de vie. C'est qu'il y a quelque chose quand même à recevoir dans nos cœurs. Et je pense que tout le monde qui a reconnu Jésus-Christ comme sauveur, il est sauvé, d'accord? Il est sauvé. Il est sauvé. On ne peut pas dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Non, tu as le Saint-Esprit. C'est le B-A-B-A. Hein? Tu as le A-B-A. Ça, mais quelquefois on peut grandir. Il y a des moments, il y a certains, je sais qu'il y a des moments où on peut vraiment vivre une expérience, ce qu'on peut appeler baptême dans le Saint-Esprit. Ça peut être comme une deuxième expérience où boum, on sent Dieu, on est transformé, on prend l'ascenseur vers le ciel. Mais il ne faut pas être borné à absolument une deuxième expérience. Ça peut être une éclosion de ce qui est déjà en nous. Ça peut être une ouverture pour recevoir. Et donc, pour moi, je ne vais pas faire la guerre de la théologie. D'accord ? Pentecôte n'est pas de faire la guerre de la théologie. Je veux faire un encouragement aux fruits. Un encouragement à vivre la plénitude du Saint-Esprit. La joie, la victoire. Et ce que Dieu a donné à Pentecôte, il a donné, bon, surtout verset 17, il dit « Vos fils et vos filles prophétiseront ». Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Et donc, ils donnent des rêves, quoi. Des visions, des rêves. Ils ressuscitent nos rêves. Le Saint-Esprit est là pour nous donner une qualité de vie, une qualité de promesse. Voilà, Seigneur, accomplis mes rêves, Seigneur. Accomplis mes rêves. Et c'est aussi, quand tu vois le discours de Pierre, verset 32, ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Et donc, le message de Pentecôte, c'est aussi résurrection. C'est la puissance de Dieu. C'est le rêve et la résurrection. C'est une qualité de vie où on est inspiré, où on est innovateur. Quelqu'un a dit, un professeur d'Harvard, que Pentecôte, c'est une invitation à rêver. Une invitation à aller au-delà de nos conventions et de nos limites. Une invitation à vivre une qualité de vie. Et je vous encourage à recevoir le Saint-Esprit. À encore avoir soif, comme une biche soupire auprès des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après Dieu. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Ah, j'ai besoin de toi, Seigneur. Je veux boire de ton Saint-Esprit, Seigneur. Encore plus. Et donc, c'est une invitation à vivre les merveilles de Dieu. Verset 11. Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Alléluia. Seigneur, je veux être Robert au pays des merveilles. Je veux vraiment être au pays des merveilles avec toi. Je veux que le Saint-Esprit renouvelle cette révélation que tu es merveilleux. Que tu me montres combien cette incarnation est merveilleuse, comme Marie, simple vierge, Myriam on dirait, hein, son vrai nom, a accueilli le Saint-Esprit, qui était un esprit rempli de fécondité. Saint-Esprit est rempli de fécondité. Et elle a porté Jésus, quel miracle, l'incarnation. Et après, quel miracle la vie de Jésus, quelle merveille, merveilleux, il a vécu sans péché et rempli d'amour. Et quelle merveille, il a donné sa vie sur la croix en disant, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, mais quelle merveille, c'est merveilleux tout ça. Et le plus grand merveille pour moi, c'est après 3 jours, il a vaincu la mort, alléluia. Il est sorti du tombeau, c'est merveilleux, Jésus est ressuscité. Et que le Pentecôte restaure notre émerveillement à l'évangile, parce qu'on s'habitue, mais c'est merveilleux la vérité que nous possédons, c'est merveilleux la relation que nous possédons. Et quand nous entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu, quand ça commence à nous toucher, ça devient merveilleux en nous. Alléluia. Voilà, que Pentecôte restaure les merveilles de Dieu. Nous entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Si vous voulez dire quelque chose, il faut que ça soit merveilleux. Il faut que ça soit merveilleux. Allez, j'ai dit puissance, j'ai dit passion. Et il y a aussi le don de parler en langue. Allez, je vais terminer avec ça. Le don de parler en langue. Il dit en Corinthiens, hein, je n'ai pas le temps de faire toute une étude, mais il dit il y a diverses langues. Et donc, il y a une grande diversité. Et donc, alléluia, s'il y a diversité, on peut commencer avec l'amour du Père. Après, on peut parler de vraies langues, chinois, coréen, français, pour la mission, pour avoir un sens de la mission et de la persévérance, de l'amour des nations. Et bien sûr, il y a cette diversité, le don de parler en langue, où c'est une entrée dans un monde surnaturel, où on est surnaturellement béni par le Saint-Esprit, et Paul, il fait toute une liste de comment il faut pratiquer cela. Mais je vais vous dire de mon expérience, d'accord ? Moi, je pense que quelquefois, on a besoin de sanctifier notre environnement. Et voilà, souvent, je me trouve dans des lieux où c'est un peu sale, où il faut mettre une bonne dose de Javel spirituel. Et même dans mon propre cœur, je suis tenté, qu'est-ce que c'est ça ? Et donc, je sors le Javel, et c'est un peu agressif quelquefois. Tu vois, voilà, le don de parler en langue, que, voilà, il y a une expression de l'amour de Dieu, à mon avis, pour la sainteté, pour sa présence. Et c'est pas, je me baigne dans l'amour du Père, non. C'est pas que je suis en mission vers un amour pour les nations, mais je suis en lutte contre Satan, souvent. Et je dirais que le don du Saint-Esprit, comme ça, il y a un don, comme David qui a joué l'harpe, même si c'est une image, pour calmer l'esprit de Saül. Et il y a un don du Saint-Esprit. Et Paul dit que quand vous priez en langue, vous vous édifiez vous-même. C'est une sorte d'édification personnelle. Quelquefois, quand je roule en voiture des heures et des heures, c'est pas que faire. Je prie en langue et quelquefois je prie assez silencieusement parce que les enfants vont penser qu'ils ont un papa fou. Je ne veux pas être trop religieux non plus. Donc quelquefois juste on peut le faire silencieusement, mais ça nous garde. Ça nous garde. C'est un outil, c'est quelque chose de bien. Et si quelqu'un dit, oh mais je ne sais pas, j'aimerais bien ce don-là, ce n'est pas compliqué. Moi je peux prier pour vous à la fin et je vous encourage. Hein. Mais c'est pas, si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave non plus. Vous pouvez vous focalisez sur Jésus et priez, juste, voilà, pensez à Jésus. Mais c'est quand même quelque chose qui peut être utile. C'est un peu dangereux aussi, parce qu'il y a toutes sortes dans le monde spirituel, tu as des contrefaçons aussi. Ça serait naïf de dire que tout ce qui brille est de l'or. Et donc, voilà, il faut mieux être fondé sur la parole, fondé sur toutes les bonnes choses et tout ça. Mais il y a ce don qui perce. Je dirais, c'est comme une lutte spirituelle qui perce dans les séances de délivrance aussi. Peut-être que c'est une autre session de développer toute la richesse de ça. Mais, tu sais qu'on... Il faut faire attention de ne pas être trop enthousiaste pour le don de parler en langue. Surtout dans l'Église. Parce que, voilà, ils sont sortis, bah, ils parlaient en langue. Peut-être ils avaient la percée aussi, peut-être ils avaient des vraies langues, c'est vrai, les vraies langues qu'ils parlaient, toutes sortes de choses. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter. Et ça attire la foule, mais à un moment donné, il faut s'arrêter parce qu'il y a un discours de Pierre, un discours dans la langue de tout le monde, que tout le monde allait comprendre, adapté culturellement. Il faut vraiment, il y a un moment de vraie interprétation qui doit dominer. Et Pierre, debout, il commence à parler. Il cite l'Écriture. Ah, tu sais, ah, je parle en langue, j'ai plus besoin de la Bible. Si. Il cite la Bible dans un vrai discours. Dans un vrai discours. Écoutez mes paroles. Et il cite, il est adapté culturellement pour les Juifs qui sont là. Et il proclame clairement le message de Jésus-Christ sauvé. Et le fruit de ça, verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole. Tu vois, c'est pas les paroles en langue maintenant, c'est sa parole très claire, furent baptisés. Et en ce jour-là, furent ajoutés environ 3000 âmes à l'Église. Alléluia. Et nous, on veut juste 50. Mais il faut que notre parole soit claire pour ça. Et comme Paul dit aussi, il dit dans 1 Corinthiens 14, 18, hein, 1 Corinthiens 14, 18, il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Oh, il est un peu gonflé, lui, hein, souvent, toi. Mais moi, il n'est pas du tout contre le parler en langue. Je suis sûr que tout le temps, quand il était sur son âne, ou quand il écrivait Galates, Abba, il a mis l'esprit Abba dans nos corps, Abba, 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 Abba. Et même, il parlait beaucoup de langues, Paul. Il parlait beaucoup de langues. C'était un vrai missionnaire. Et donc, il dit, ça ne me gêne pas, je parle en langue. Je parle beaucoup en langue. Mais dans l'Église, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire les autres plutôt que de dire 10 000 paroles en langue. Et donc, il faut vraiment chercher l'instruction, le son clair. Et que, mais ce n'est pas pour interdire. Édification personnelle, percée spirituelle, caramba, c'est bien, il y a des moments de percée. Et même des moments où une parole en langue peut être interprétée, c'est comme une prophétie. Parce que Paul dit, il faut comme ce matin, on a eu un élan prophétique ce matin, n'est-ce pas? Il y a plusieurs qui ont dit des choses par leur prière. Il ne faut pas toujours dire, je dois changer de voix, je dois danser, je dois... Non, non, juste, même ta prière, on est prophète sans le savoir, souvent. C'est merveilleux. Moi, j'aime bien quand les gens sont prophètes sans le savoir. Parce que ça les protège de l'orgueil aussi, quand c'est comme ça. Et on sent, oh, c'est vraiment imprégné, ces paroles. Et même dans la rue, quelquefois, les gens vous parlent. Il dit, mais ça, c'est vraiment imprégné de quelque chose de prophétique. Et donc, il faut toujours, même le parler en langue, c'est juste, je ne veux pas interdire, loin de moi, mais cherchant toujours cette interprétation. Et donc, voilà, pour terminer. Je ne vous laisse pas comme orphelin. Je ne vous laisse pas comme orphelin. Je viens vers vous. Abba. Voilà, que Dieu vous donne l'esprit d'adoption ce matin à Pentecôte. C'est là le fondement de tout. À quoi bon percer le ciel contre le diable si on ne se sent pas aimé? À quoi bon avoir un grand ministère et d'être super spirituel si le fondement d'être aimé par Dieu n'est pas établi en nous? Donc commençons avec l'esprit de Pentecôte, l'amour du Père. Et après d'être en mission, d'avoir l'amour pour l'humanité, d'avoir l'amour pour les Arabes, les Turcs, de dire, voilà Seigneur, je suis en mission, je ne suis pas orphelin. Tu peux m'utiliser pour bénir ce monde. Et si je dois adapter mon langage, si je dois adapter ma culture, tant mieux Seigneur, je suis ouvert à ça. Inspire-moi, oins-moi, donne-moi une onction. Fais que j'apprends le français instantanément, c'est possible. Mais en même temps, mais Seigneur, donne-moi de parler en langue. Donne-moi le don de parler en langue. Pour percer, là quand je suis dans mes environnements opprimants, là où je suis dans des situations impures avec les gens autour de moi, donne-moi de pouvoir parler en langue pour libérer un espace de pureté, là où je sens que les démons m'oppriment, Seigneur, donne-moi le parler en langue pour chasser loin de moi de mauvais esprits. Et Seigneur, donne-moi aussi cette capacité prophétique, même peut-être les gens peuvent avoir des langues qui peuvent être interprétées, tout cela. Et Seigneur, donne-nous une vie de rêve. Donne-nous une vie de résurrection. Et Seigneur, que plusieurs personnes puissent se convertir au travers de notre témoignage. Voilà, Seigneur, 3 000, c'est bon. Mais si tu nous donnes 50, ça va aussi. Et donc, Seigneur, je remets toutes ces choses entre tes mains. Bénis mes frères et sœurs. Au nom de Jésus. Amen.